Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous saurez me dire quel était le thème de l'année qu'on a abordé dans l'Église ? Oui, c'est encore affiché, la famille selon le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est un thème vraiment important ? En fin de compte, c'est important parce que c'est Dieu qui a voulu et qui a créé la famille, et il l'a voulu comme unité de base de la société. Et puis, il veut aussi former une famille avec ses créatures. En fait, finalement, l'Église, c'est une famille de familles. Alors la famille, c'est un lieu de multiplication, c'est là qu'arrivent les enfants. C'est un lieu de transmission, un lieu d'éducation, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de croissance, c'est un lieu dans lequel aussi on sait qui on est, notre identité. C'est un lieu de protection, de sécurité. C'est aussi un lieu où on est vrai les uns avec les autres. On ne peut pas se cacher des membres de sa famille. Ils finissent par nous connaître bien. C'est un lieu aussi où on apprend le pardon. Bref, c'est un lieu de relation. Et Dieu, c'est un Dieu relationnel. Et donc, il voulait la famille pour qu'elle reflète ses relations. Et puis, il a aussi créé l'Église pour que ça reflète ses relations. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, il dit « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. » Il s'adresse aux gens de l'Église d'Éphèse. Alors, comment est-ce qu'on entre dans cette famille ? Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant. Ah, ça n'a pas marché, mon truc. Ah mais non, je suis à la fin du PowerPoint. Pardon, excusez-moi. On entre dans cette famille par adoption. Ceux qui ne croient pas en Christ, ce sont des enfants de colère, des fils de la rébellion, nous dit aussi l'apôtre Paul dans cette même épître aux Éphésiens. Et puis aux Juifs qui le rejetaient alors qu'ils revendiquaient d'avoir Dieu comme père, Jésus leur a dit, l'évangile de Jean, que leur père, c'était le diable. Par nature, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous sommes rebelles. Nous sommes des enfants de colère et finalement, on a comme père le diable. Mais pourtant, à ceux qui ont accueilli Jésus, qui ont cru en lui, à tout cela, Jésus a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Et en fait, l'adoption, c'est un acte par lequel Dieu nous fait membres de sa famille. Alors, pour regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, cet acte d'adoption, je vous invite à lire ensemble un passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Dans la grande histoire que raconte la Bible, l'histoire de l'amour de Dieu pour ses créatures, il y a un livre qui résume bien toute cette grande histoire, c'est le livre de l'Épître aux Romains. Et dans ce livre de l'Épître aux Romains, il y a une espèce de sommet, c'est le chapitre 8. C'est un des passages qui exprime le plus clairement en fait, ce que l'Esprit de Dieu fait en nous et à quel point l'amour de Dieu pour nous est immense. Et donc je vais vous lire quelques versets de ce passage de Romains 8. À partir du verset 12. Donc Romains chapitre 8, l'Épître aux Romains chapitre 8, à partir du verset 12. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc, on s'arrête là pour la lecture de la parole de Dieu. Et en fait, on va voir trois aspects liés à cette adoption. L'adoption nous pousse à l'obéissance. L'adoption nous libère. Et l'adoption fait de nous des héritiers de Dieu. Dans les versets 12 à 14, on voit que l'adoption nous pousse à l'obéissance. Il commence le verset 12, l'apôtre Paul, par « ainsi donc ». Donc en fait, il est en train de relier la phrase qu'il est en train d'écrire par rapport à ce qu'il a dit avant. Alors qu'est-ce qu'il a dit avant ? Il a dit que la loi, elle révèle le péché, mais qu'elle ne peut nous sauver. Elle est impuissante pour changer notre nature profonde d'homme rebelle contre Dieu. Cette nature, elle est esclave du péché, elle est incapable de plaire à Dieu. Le péché était notre propriétaire, et dans notre nature humaine, on était ses esclaves. Et le salaire du péché, les conséquences du péché, c'est la mort. Par contre, l'Esprit de Dieu, il nous donne la vie par l'union avec Jésus-Christ. Dieu a exécuté la sentence de mort que nous valait notre péché, mais sur la personne de Jésus-Christ. Et lui nous a rachetés au prix de sa vie. Dieu nous a régénérés, il nous donne une vie et une identité nouvelles. Et il nous a aussi justifiés. Ça, c'est notre statut, on va dire, légal, juridique. C'est-à-dire qu'on n'est plus condamné. Jésus est celui qui a payé la condamnation à notre place et qui nous a libérés. Donc, le « ainsi donc », il parle de tout ça. Et « ainsi donc », nous sommes débiteurs, nous sommes redevables, nous avons une dette, une obligation. C'est un langage comptable, hein, ou financier. Finalement, ce qu'il est en train de dire dans ce petit passage, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe de créancier. Nous devons notre vie à Dieu. Nous avons une dette envers lui, notre salut. On était incapable de nous sauver ou de nous changer nous-mêmes. C'est lui qui l'a fait et donc on a une dette envers lui. En fait, ça m'a fait penser à une petite histoire. Enfin, j'ai trouvé une petite histoire sur Internet. Ça s'est passé le 25 juin de cette année. En fait, il y a un grutier dans le Morbihan qui était bloqué à 35 mètres de haut, d'en haut de sa grue, à cause d'un mal de dos. En fait, il était incapable de se sortir de là tout seul. Normalement, il monte à sa grue, il fait son boulot, il redescend le soir. Il était incapable, il était coincé, il n'avait aucun moyen de sortir de sa grue. Du coup, il y a 11 sauveteurs qui ont dû intervenir pour le libérer de sa cabine. C'était lundi, donc, oui, c'est ça, lundi dernier, à Riantec, dans le Morbihan. Alors, l'opération, vous imaginez que ça a bien dû être assez périlleux. Ça a mobilisé 11 sauveteurs de Lorient, de Vannes, du Pouinec et de Port-Louis. Ça a duré un peu plus de 2 heures. Donc, il y a eu 2 groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux qui ont escaladé cette grille, qui ont redescendu la victime, qui était immobilisée. Et donc, le grutier, après, a été transporté au centre hospitalier de Lorient pour y être examiné. Ce grutier, il était incapable de se sortir tout seul de sa situation. Toute proportion gardée, nous, c'est pareil. On est dans notre nature de péché, on est incapable de nous sortir tout seul de notre situation. On peut essayer de faire des efforts, de toute façon, on n'y arrive pas. C'est même pas la peine. Et au verset 13, ce que l'apôtre Paul dit, si vous vivez selon votre nature humaine sans Dieu, vous allez mourir. Par contre, si vous faites mourir ces actes de la nature humaine sans Dieu, vous vivrez. Bon, je viens de dire qu'on était incapable par nous-mêmes de nous sortir de cette situation. Alors comment est-ce que je peux, par moi-même, faire mourir ces actes mauvais ? Il y a la suite. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est intéressant de voir que cette phrase, elle est à la voix passive. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que, en fait, c'est l'Esprit qui nous conduit. Et c'est l'Esprit qui nous permet de faire mourir les actes de notre nature sans Dieu. Alors, certes, nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de faire mourir en nous les agissements de notre nature humaine sans Dieu, mettre à mort notre vieil homme. Mais comment est-ce qu'on peut le faire en étant conduit par l'Esprit ? C'est cet Esprit qui conduit en nous le vouloir et le faire. Et donc l'adoption que Dieu nous propose, elle nous pousse à l'obéissance. Elle nous pousse à, de plus en plus, mettre notre volonté en action pour laisser le Saint-Esprit nous diriger. On connaît les agissements de notre nature sans Dieu. Bon, il y a plusieurs listes dans le Nouveau Testament. Il y a par exemple la liste de l'Épître aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 19. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Pardon. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Bon, alors, quand on voit l'adoration des idoles, on se dit, ouais, je ne suis pas tellement concerné. Simplement, l'adoration des idoles, c'est tout ce qui, dans ma vie, prend la place de Dieu ou est mon Dieu. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être moi-même, ça peut être ma santé, ça peut être mon conjoint, mes enfants, mon travail, l'argent que j'espère un jour pouvoir gagner. Enfin, plein de choses qui peuvent pas forcément être mauvaises par nature, mais c'est la place qu'elle prend qui font que ça devient une idole. Et donc toute ma bonne volonté, tous mes efforts, toute ma persévérance ne suffiraient à me sauver ni même à me rendre meilleur. J'ai profondément besoin de l'Esprit de Dieu, j'ai profondément besoin d'un sauveteur, d'un sauveur, pour mettre à mort, jour après jour, cette nature humaine sans Dieu. Notre nature humaine naturelle nous obligeait à pécher. Dans notre libre arbitre, finalement, on peut agir que conformément à notre nature humaine. Bah, c'est un esclavage et c'est le péché. Mais avec notre nouvelle nature, on est libéré de cet esclavage et on a la possibilité de vivre autrement. Ça me fait penser à une autre illustration. Est-ce que vous savez qu'on est en plein mercato ? Est-ce qu'il y a des fouteux parmi nous ? Alors, où va aller Neymar à la prochaine saison ? Après son... N'est-ce pas ? Barcelone, apparemment, je regardais hier, les pronostics maintenant vont plutôt sur Barcelone parce qu'apparemment le Real, ça ne marche pas, même si Zidane aurait voulu le recruter. Et Mbappé, a priori, il reste au PSG, mais peut-être pas pour très longtemps. Et Griezmann, il va où ? On ne sait pas. En tout cas, a priori, il quitte l'Atlético Madrid, hein, d'après ce que j'ai compris. C'est marrant, ces histoires de transfert. En fait, pendant toute une saison ou plusieurs saisons, il y a un joueur qui porte le maillot d'une équipe. Et puis, suite à ce mercato, il y a des négociations entre les clubs, les joueurs, leurs agents, il y a des intox, des infos, des machins. Bref, ça alimente des rumeurs, des discussions au café ou dans les cours d'école. Et tout d'un coup, il y a un nouveau contrat qui est signé et ce joueur, il change d'équipe. Bon, une fois que le transfert est fait, auprès de qui le joueur est-il loyal ? Avec qui il va jouer ? Bah avec la nouvelle équipe, ça vous paraît tomber sous le sens. Hein ? Bon, bah finalement, le salut, c'est bien plus qu'un transfert d'une équipe à l'autre. Donc si maintenant j'appartiens à Dieu, il n'y a aucune raison que je continue à jouer dans l'équipe de l'adversaire. Enfin, ça vous paraît... Alors, c'est la même chose dans notre nature humaine sans Dieu, qui est esclave du péché et rebelle à Dieu. À partir du moment où on a accepté le salut, on a changé d'équipe, on a changé de nature, et donc on doit notre obéissance et notre loyauté à cette nouvelle équipe, à Dieu et à ce qu'il nous demande. J'ai pas dit que c'était évident et simple, surtout quand il s'agit de nos habitudes, elles ont de la peine à changer. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous conseille et nous demande de faire mourir les actes de notre ancienne nature. Mais effectivement, on n'a aucune raison de continuer à jouer dans l'équipe adverse. Ensuite, cette adoption, elle nous libère. Et c'est ce que dit le verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et de nouveau, c'est à la voix passive. Hein. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fasse de vous des esclaves, mais vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on aurait un mérite quelconque, hein. Il l'a fait par amour. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et il veut que nous ayons une vraie relation de confiance avec lui. Et là, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu de ce que ça veut dire, l'adoption. En France, il y a deux types d'adoption qui existent dans le droit français. L'adoption simple et l'adoption plénière. Bon, je n'ai pas fait de droit, mais j'ai regardé un peu Internet. Donc, l'adoption, en fait, elle crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté. Dans le cas d'une adoption simple, ça ne rompt pas les liens avec la famille d'origine. Et donc l'adopté va avoir deux filiations. La filiation légitime et puis la filiation par le sang. En fait, c'est une question d'âge en particulier. Il y a des cas où en fait, l'adopté est trop âgé pour pouvoir avoir une adoption plénière. Et donc il a une adoption simple. Et l'adoption simple, en fait, alors après au niveau de la fiscalité et de l'héritage, c'est un petit peu plus compliqué. Et d'ailleurs, le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté. Et puis, l'adoption simple, dans certains cas graves, elle peut être révoquée. Par contre, l'adoption plénière, c'est une nouvelle filiation qui remplace complètement la filiation d'origine. Donc les liens avec la famille d'origine sont rompus. Et du coup, l'enfant, il devient héritier au même titre qu'un enfant par le sang. Donc, sur le plan fiscal, ça ne change rien. C'est comme si c'était un enfant biologique. Et d'ailleurs, au niveau du nom, l'adopté, il a une nouvelle filiation qui remplace complètement celle d'origine et il prend automatiquement le nom de l'adoptant. Et l'adoption plénière, il y a un truc important, elle est irrévocable. On ne revient pas en arrière. L'adoption que Dieu nous propose, c'est une adoption plénière. Un changement complet d'identité, et c'est irrévocable. Et ça, c'est important. Dieu n'est pas en train de nous dire « je vous adopte, mais si vous êtes vraiment trop mauvais, je vous laisse tomber ». Non, non. C'est une adoption plénière, totale, complète. Et notre nature d'origine, elle est complètement remplacée par la nature et par l'identité que Dieu nous offre. On change de nom. Donc on ne change pas seulement d'équipe, on change de nom complètement et on change d'identité. Et donc c'est libérateur. On n'est plus esclave de ce péché qui nous collait à la peau et duquel on était incapable de sortir, coincé dans notre grue. Ensuite, l'adoption, elle est marqué par le sceau du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des fils adoptifs de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vit en chacun des enfants de Dieu, en chacun des chrétiens, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et ce Saint-Esprit permet de crier « Abba », c'est-à-dire « Père ». On l'a chanté tout à l'heure. « Abba », c'est le terme araméen, qui veut dire « Papa ». C'est le terme que Jésus il utilise dans ses prières. C'est un terme affectueux, c'est un terme qui est aussi respectueux et c'est aussi un terme qui exprime la confiance. Avec l'adoption que Dieu nous offre, on peut s'adresser à Dieu comme à un Père qui nous aime. D'ailleurs, dans les prières, par exemple, la prière que Jésus nous invite à prier comme un modèle de prière, ça commence par « Notre Père ». On n'est plus des esclaves dans une relation de crainte, mais on est ses enfants, dans une relation de confiance. Dieu, il nous aime et il nous comprend. Le psaume 103, au verset 13, il dit la chose suivante. « Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelles pattes nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. » Dieu, à travers l'adoption aussi, il pourvoit à nos besoins. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 6. Avec l'adoption, le fait de rentrer dans la famille de Dieu, ça nous ramène aussi à autre chose, un autre privilège. C'est que nous pouvons être corrigés par lui. Ça, on n'y pense pas spontanément, mais dans une famille, ça existe aussi, la correction, puisque c'est un lieu d'apprentissage et d'éducation. Et par exemple, on peut voir ça dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, à partir du verset 5. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. » On ne pense pas forcément que la correction, ça soit quelque chose de bien, de base. On n'aime pas trop être corrigé. Et d'ailleurs, c'est souvent un sujet de discussion en famille, la correction. Mais en fait, finalement, la correction, c'est une preuve d'amour de Dieu. Mais il ne veut pas qu'on chute, il ne veut pas qu'on tombe. Il veut aussi que de plus en plus on le reflète. Ben donc, il nous corrige, il nous taille. Nous disent d'autres passages bibliques. Il nous sculpte pour qu'on lui ressemble de plus en plus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il parle de l'exemple de la famille terrestre en disant que nos parents nous ont corrigés pour qu'on soit éduqués, pour notre bien. Et ça me fait penser à ce que nous disait Katiana. Quelle sorte de père terrestre on a eu ? Est-ce qu'on a eu un père qui était aimant ? Est-ce qu'on a eu un père peu aimant, voire pas du tout aimant ? Est-ce qu'on a eu un père doux ? Ou alors un père sévère ? Voire même violent ? Ou alors est-ce qu'on a eu un père qui était là, qui était présent ? Ou alors un père qui était distant, fuyant ou carrément absent ? C'est sûr que nos familles terrestres, elles sont pas forcément idéales. D'ailleurs, tous les parents terrestres, ils sont imparfaits, ils sont marqués par le péché. Mais Dieu a conçu la famille au départ pour que ça soit un endroit où on trouve sa sécurité, un endroit où on a de la valeur, un endroit où on peut être soi-même, un endroit où on peut apprendre, un endroit où on est éduqué, un endroit où on est corrigé, un endroit où on pardonne, un endroit où on est pardonné. Alors si on a reçu des bons exemples dans notre cellule familiale, on peut être reconnaissant, parce qu'on peut un peu comprendre quel genre d'amour Dieu nous propose. Et si on n'a pas reçu de bons exemples, je vous rassure, ce n'est pas perdu. Effectivement, tous les parents terrestres, de toute façon, même s'ils essayent d'avoir la meilleure éducation possible, il y a des moments où ils se plantent. Mais par contre, on peut apprendre que Dieu, lui, est le vrai Père parfait. Lui, il est complètement bienveillant, il nous aime parfaitement. Il est rempli de patience, de bienveillance, de tendresse pour nous. Et peut-être qu'on a, comme Katiana disait, on n'a peut-être pas eu un papa comme ça, mais Dieu, il peut être ce papa-là. Alors, excusez-moi. Alors maintenant, on se place dans l'autre situation. En tant que parents, on a une sacrée responsabilité envers nos enfants, non seulement pour les éduquer, pour faire des adultes, mais aussi parce que, en tant que parents, on reflète ce que Dieu veut être pour eux. Quel genre de père on est ? Quel genre de parent on est ? Est-ce qu'on reflète vraiment le Père Céleste ? Ou alors on est tellement dans notre nature humaine est encore tellement forte que finalement, on ne reflète pas du tout le Père Céleste. Quel genre de relation on a avec nos enfants ? C'est une vraie question. Et puis, en tant qu'Église, l'Église, elle est, Dieu l'a conçue pour être comme une famille de familles. Donc on est tous membres de cette même famille. Et par exemple, on voit les conseils que Paul donne à Timothée, qui était responsable de l'Église d'Éphèse, de nouveau l'Église d'Éphèse, dans la première épître à Timothée au chapitre 5. Il dit « Ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs en toute pureté. » En fait, ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est que dans l'Église, c'est une famille élargie finalement, et les relations qui existent, ça doit être du même ordre que celles qui existent dans la famille terrestre ou nucléaire. Et finalement, en tant que membre de l'Église, on peut être des oncles, des tantes, des grands-parents, des frères. On s'appelle frères et sœurs, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, quoi ? Est-ce que vraiment on a ce genre de relation proche ? En fait, les psychologues et les sociologues se sont rendus compte que la relation qui est le plus durable, d'une manière générale, dans notre société, et puis même d'une manière générale, finalement, c'est la relation des fratries, parce que c'est celle qui commence le plus tôt, et puis qui dure toute la vie. Est-ce qu'on a ce genre de relation dans l'Église ? Et puis, si on vient de familles qui ont été cassées, qui n'ont pas bien fonctionné, qui ont été décomposées, enfin, je ne sais pas, tout ce qu'on peut avoir vécu, on peut retrouver ce genre de relation dans une Église. Et est-ce qu'on est attentif aux besoins relationnels des gens ou des gens de l'Église autour de nous ? Il y a peut-être des enfants dans l'Église qui n'ont pas de papa, par exemple. Ils auraient besoin d'avoir des papas de substitution. Il y a peut-être des familles où les grands-parents sont très loin. Et donc, je peux être une grand-mère ou un grand-père pour les enfants dans l'Église, en étant de bons conseils et puis en prenant soin des plus jeunes. Voilà, il y a tout un champ qui s'ouvre à nous, là. L'Église, c'est un travail de famille. Et donc, il n'y a pas de raison dans nos relations de se rivaliser, de se mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt à être des encouragements mutuels, à être reconnaissant des progrès et des bénédictions que nos frères et sœurs peuvent vivre. Et on est encouragé par les apôtres à imiter notre Père Céleste. Toujours dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit la chose suivante : « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Et finalement, notre bonne conduite, notre comportement, ça prouve qu'on est des vrais enfants de Dieu. Et c'est Jésus qui a dit ça, on le voit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Voilà comment est-ce que le fait d'être adopté, ça peut transformer notre vie et nos relations les uns avec les autres. Dernière étape, l'adoption fait de nous les héritiers de Dieu. Comme dans l'adoption plénière en France, notre adoption fait de nous des héritiers de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, verset 16, je vais le relire. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Et là, l'apôtre Paul, il s'inclut, il dit « nous » maintenant. Avant, il disait « vous », mais là, il dit « nous ». Il s'inclut dans le passage. Dieu prévoit pour nous un héritage éternel dans les cieux. Nous sommes les enfants du roi. Nous sommes princes et princesses qui régneront avec lui. l'apôtre Pierre dit la chose suivante. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors voilà, il y a des jolies choses dorées qui s'affichent derrière moi. Mais la valeur de notre héritage, c'est bien plus que des bijoux, que d'argent. Cet héritage, c'est l'avènement du royaume de Dieu, qui prendra vraiment toute sa dimension dans la nouvelle création. Et donc c'est une promesse qui n'est pas encore complètement accomplie. Donc c'est quelque chose qu'on vit en espérance. Et aujourd'hui, à la fois, on est dans l'attente quelque part, et on a aussi le privilège de participer à la fois à la gloire de Christ, mais aussi à ses souffrances. Et c'est ce que dit aussi l'apôtre Paul dans le verset suivant de Romains 8. « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Finalement, ce qu'on vit dans notre nature humaine, les difficultés, les épreuves, les tentations, les conséquences aussi du mal et du péché, et puis notre corps aussi qui est faillible, mortel. Tout ça, c'est finalement pas grand-chose, vraiment rien du tout, par rapport à tout ce qui nous attend. Et tout l'héritage que Dieu veut nous donner. C'est une vraie espérance. C'est quelque chose qui va durer et qui ne va pas se détruire, qui ne va pas se corrompre, qui ne va pas perdre sa beauté. Et donc, c'est aussi quelque chose qui peut nous motiver à continuer à persévérer. Donc, par Jésus-Christ, Dieu nous a régénérés. Il nous a donné une nouvelle nature. Il nous a justifiés. Il a changé notre statut légal. De coupable, on est passé à justifié. Et il nous a adoptés. La preuve de cette adoption, c'est le Saint-Esprit qui vit en chacun de ses enfants. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc et qui nous rappelle qu'on est enfant de Dieu. Alors, après, la question est de savoir, si moi, le Saint-Esprit ne me dit rien, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu ? C'est encore possible, aujourd'hui, de dire, Seigneur, j'ai envie d'être ton enfant, j'ai envie que tu m'adoptes. Et il va nous adopter de façon plénière. Il va changer notre identité. Et cette adoption, elle va nous libérer de l'esclavage du péché. Elle va faire de nous des héritiers de Dieu. Alors maintenant, en tant que chrétiens, nous avons à vivre conformément à cette nouvelle identité. On a changé de camp. On a changé de maillot. Et plus que ça, on a changé de l'intérieur. Donc, conformons nos vies, obéissons à Dieu par son Saint-Esprit, par sa grâce. Vivons avec l'espérance de l'héritage qu'il nous a promis, malgré les épreuves, les difficultés. Et puis au niveau pratique, soyons des parents, ou soyons des oncles et tantes, ou des grands-parents dans l'Église, qui donnent envie de connaître le Père Céleste et qui le reflètent. Je vais encore prier pour terminer. Seigneur, merci parce que tu nous offres ce cadeau de devenir tes enfants. Tu veux nous adopter et tu as choisi de faire de nous tes enfants alors que finalement, nous, on était complètement incapables de te plaire. Merci parce que tu nous donnes ton esprit qui nous rappelle cette vérité. Merci parce qu'on peut vivre cette réalité en espérance déjà sur cette terre, en sachant que un jour, on sera dans ta présence et on sera délivré pleinement de toutes ces difficultés liées à, au péché qui est dans notre monde, et aux souffrances, et au mal, et aux douleurs. Et merci Seigneur parce que ça, tu nous l'as promis. Et merci parce que dès aujourd'hui, tu veux être un Père plein de tendresse pour nous. Un Père qui prend soin de nous, qui connaît nos besoins, qui est patient et qui est bienveillant envers nous. Et Seigneur, donne-nous aussi dans nos propres relations de refléter ce Père céleste que tu es. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.